Bonjour, soyez les bienvenus dans le grand jardin des savoirs qu'est Babylone. Aujourd'hui, table ronde sur une question qui soulève encore et toujours les passions. La place accordée aux faits religieux à l'école publique. Pourquoi faut-il que l'école s'empare de ce sujet d'étude? Qu'attend-on de l'enseignement du fait religieux? Quelles sont les divergences d'approche entre les différents cantons romans? Comment s'y prend-on ici et là pour gérer la multiculturalité des élèves? Et enfin, que changeront dans les années qui viennent le nouveau plan d'études romans et le concordat Armos? Pour nous éclairer sur ces questions, quatre personnes sont réunies autour de la table de Babylone ce matin. Sabine Girardet, co-responsable des éditions Ambiro, entendez par là enseignement biblique et interreligieux roman. Frédéric Widever, responsable du processus d'harmonisation scolaire pour le département de l'instruction publique du canton de Genève, ainsi que deux formatrices dans les hautes écoles pédagogiques, deux didacticiennes de l'enseignement du fait religieux, Nicole Avaïs de la HEP du Valais et Christine Faver-Caputo, formatrice à la Haute École Pédagogique du canton de Vaud. Et puis Nicole Avaïs, vous travaillez aussi pour la formation des enseignants à Fribourg. Soyez donc les bienvenus tous les quatre. Nous serons rejoints dans une demi-heure par Elisabeth Baumschneider, qui est ministre de l'Instruction publique du Jura et qui est surtout la présidente de la Conférence intercantonale de l'Instruction publique de la Suisse romande et du Tessin. Voilà pour les présentations. Sachez que si le sujet vous interpelle, si vous avez des questions à poser à mes invités, vous pouvez sans autre prendre votre téléphone. Nicole Corpato répondra à vos appels au 0840 222 123 et elle nous les passera. Vous pouvez aussi nous envoyer un message électronique. Notre adresse, c'est babylone@rts.ch. Carmen Algarada tient les manettes de la technique. Laurence Di Félix est au micro. Et c'est avec une carte postale signée Bruno Seriba que nous vous ouvrons bien grand les portes de Babylone.
Aujourd'hui, Jésus est dans la maison, il parle, il raconte du royaume de Dieu. Et il y a énormément de gens qui sont intéressés. Ils sont même venus de Jérusalem, la grande ville.
La vie, et ils se présentent dans la mort, le sens de l'existence, l'origine de l'homme, la fin de l'homme. Et je pense que si nos jeunes peuvent à un moment de leur vie être initiés à ces questions-là, c'est mieux que s'ils ne le peuvent pas.
Puis Jésus monta sur une colline pour y prier et passa toute la nuit là, à prier Dieu.
Mais vous devez aussi entendre une chose, c'est que nous, on doit transmettre à votre enfant un souci d'universalité, ce qui est universalité. C'est-à-dire permettre à votre enfant de transcender sa frontière communautaire.
Le mot laïque, ça peut signifier effectivement celui qui n'est pas clair, celui qui ne fait pas partie du clergé, mais le laïc, ça peut être aussi celui qui est extérieur à la religion.
Merci Père de ton amour, merci Jésus de ton secours.
Alors vous représentez à vous quatre trois cantons romans, les cantons de Vaud, du Valais et de Genève, trois cantons de cultures très différentes. Première question, avant de parler du comment enseigner le fait religieux aujourd'hui dans l'école publique, j'aimerais qu'on explique dans quel but parle-t-on de religion dans vos cantons respectifs. Qui répond la première, Christine Faver-Caputo, pour le canton de Vaud?
Alors, dans l'enseignement public, si on a mis en place cette discipline, c'est surtout pour permettre aux élèves de prendre conscience du monde qui les entoure, du patrimoine, de l'héritage artistique que les grandes religions ont laissé dans la société actuelle. Et aussi parce qu'on a découvert que les élèves avaient souvent un analphabétisme religieux qui les empêchait de comprendre ne fût-ce que des tableaux dans les musées, les architectures, des églises ou même simplement de bâtiments. Et c'est un petit peu pour les ouvrir à ces éléments-là que cet enseignement existe, mais également aussi pour comprendre les valeurs qui fondent nos sociétés, qui sont quand même en grande partie fondées sur les religions judéo-chrétiennes. Et puis aussi parce que le monde actuel, il se résume pas seulement au village dans lequel on habite. En un clic d'internet, on est à l'autre bout du monde. Donc on est en fait un citoyen du monde. Et que c'est très important de pouvoir comprendre les autres, pas seulement ceux avec qui on vit, mais ceux qui vivent à côté de nous, que ce soit dans le même pays ou que ce soit dans d'autres pays. Donc c'est important de pouvoir les comprendre pour être tolérant, accepter et respecter les autres.
Donc à la fois un enseignement d'ordre culturel et une ouverture sur le monde. Nicolas Vaïs, en Valais ou à Fribourg, puisque vous travaillez aussi à Fribourg, canton catholique, c'est aussi ce but-là qui est recherché à travers cet enseignement du fait religieux à l'école.
Je pense que c'est les éléments principaux qu'on retrouve dans tous les cantons. Au fond, c'est l'idée, effectivement, le point de vue culturel. On ne peut pas vivre dans une société si on ne connaît pas son histoire. Et le poids de l'histoire est important, en tout cas dans nos cantons. On sent que c'est encore un poids qui est très présent. Et pour pouvoir s'intégrer dans une société, il faut connaître son histoire et donc ses valeurs et sa culture.
Répondre à la quête de sens pour les enfants qui seraient en soif d'absolu, c'est aussi un des buts recherchés par l'enseignement valais à Fribourg.
De façon explicite. Donc de pouvoir donner un sens en fait à l'existence de l'enfant en essayant toujours de respecter la quête de l'enfant. Donc sans imposer, mais vraiment de pouvoir répondre à ces questions sur sa propre quête.
Frédéric Widevert, Genève, c'est un cas un peu particulier, évidemment, on le dira, puisque l'enseignement des questions religieuses n'y est pas encore intégré en tant que tel. Il a été décidé en 2006. Sur le site internet du DIP à Genève, on cite le besoin de prévenir les dérives communautaristes. C'est un des buts recherchés.
C'est un parmi d'autres des buts recherchés, en effet. Ce qui est important... dans notre école genevoise publique et laïque, c'est d'abord de comprendre ce qu'il y a derrière ce terme, c'est de comprendre pourquoi, à un moment donné, la volonté populaire dans notre canton a conduit à cette séparation très claire de l'Église et de l'État. Et donc, pour permettre à tous les élèves, quels qu'ils soient, de bénéficier de l'enseignement, il y a ce principe donc qui a été instauré de cette école laïque et donc d'une culture laïque. Mais alors ça ne veut pas dire du tout qu'il ne faille pas reprendre les questions qui viennent d'être cette quête du sens, cette nécessité d'éclairer de façon rationnelle, avec peut-être une certaine distance, parce qu'évidemment la question religieuse dans notre société genevoise, dans la population de nos élèves, elle est sans doute plus sensible, elle est plus vulnérable. Et par conséquent, lorsqu'on met en place, on va mettre en place un enseignement qui intègre le fait religieux, qui intègre les aspects historiques, les aspects d'universalité, les croyances, il y a cette volonté d'apprendre aux élèves le respect des convictions des autres, le respect de la façon dont ils peuvent pratiquer et d'éviter justement aussi toute forme de dérive communautariste parce que c'est précisément ce qui ensuite sépare et ce qui est peut-être générateur de tensions et de conflits.
La prévention aussi contre les mouvements sectaires, c'est un des arguments qui justifie la place de l'enseignement du fait religieux à l'école.
Oui, bien sûr. Bon, tout le monde avait été frappé. C'est d'ailleurs ce qui a réveillé aussi sur le plan politique, sur le plan médiatique, cette question de l'inculture religieuse. Mais l'école doit se battre contre toute forme d'inculture, l'inculture scientifique, l'inculture de la maîtrise de la langue. Mais particulièrement, l'affaire des sectes, donc de l'ordre du temple solaire. Alors, parfois, on parlait aussi de l'ordre du temple scolaire. C'est un jeu de mots un peu facile, mais enfin, c'est vraiment à partir de là, en tout cas à Genève, que des interventions sur le plan parlementaire, enfin, ça a revivifié, réactivé. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est posé aussi la question d'une laïcité qui ne devait pas dire on ne parle pas, on ne connaît pas le fait religieux, les religions.
Ce n'est plus tout à fait une abstention.
Mais bien une laïcité agissante, une laïcité qui intègre les connaissances, mais toujours avec cette volonté de considérer les choses de façon rationnelle.
Vous le dites, le débat a été réveillé suite à l'affaire du temple solaire. Qui a adressé des demandes au département de l'instruction publique pour que cette question de l'intégration du fait religieux soit remise sur le tapis? C'est des groupements de parents d'élèves? Ce sont les églises officielles?
Non, c'est particulièrement un groupe citoyen, je dirais multireligieux, et même avec des personnes qui ne faisaient pas partie d'églises, qui s'est constitué, qui a interpellé à l'époque la conseillère d'État en charge du département de l'instruction publique. Mais ce sont aussi des interventions parlementaires, notamment du Parti des Verts. Donc ce n'était pas du tout des demandes orientées avec, en disant, en remettant en cause...
Ce n'est pas un lobby des religieux en
absolument,
disant maintenant, on veut remettre le pied dans la porte.
Absolument pas. À Genève, le principe de laïcité... Donc le principe qu'on n'enseigne pas la religion à l'école, qu'il n'y a pas d'enseignement religieux, est remis en cause par personne. Et je ne crois pas maintenant, vous savez que nous avons une constituante dans notre canton, je ne crois pas que les gens qui travaillent assidûment pour une nouvelle constitution à Genève vont remettre en question ce principe qui est un principe fondateur en fait dans notre canton.
Sabine Girardin, on va parler tout à l'heure en détail des manuels que vous publiez chez Ambiro, enseignement biblique et interreligieux roman, matériel qu'utilisent aujourd'hui presque tous les petits romans. Je dis presque parce que justement on le verra, à Genève ces manuels ne sont pas utilisés. Quelles sont les ambitions en termes de grands principes de ces manuels?
Alors je dirais que je vais répéter des choses qui ont été dites, mais je crois qu'une chose qui est importante aussi à rappeler, c'est que la situation genevoise est assez particulière en Suisse romande. Et qu'ailleurs, en Suisse romande, dans le fond, toutes les questions qui ont été évoquées, elles sont là depuis très longtemps. En fait, c'est une question de tradition. Et de ce point de vue-là, c'est un peu différent de Genève. C'est-à-dire que, si vous voulez, ces questions, elles ont été bien sûr réveillées. On se pose la question de l'inculture, mais d'une manière aussi traditionnelle. Au fond, dans la plus grande partie des cantons romands, on parle de religion à l'école, et ceci depuis de très nombreuses années. La maison d'édition que je représente ici a été fondée dans les années 60, avec un souci de concertation de la plupart des cantons romands pour essayer de trouver ensemble une manière de parler de religion à l'école. Mais dans cette tradition, il y a eu une évolution considérable. C'est-à-dire qu'on est passé, si vous voulez, d'un enseignement de la religion, c'est-à-dire un enseignement de type confessionnel, catéchétique, à un enseignement sur les religions. Et alors, pour répondre à votre question directement sur les grands buts de cet enseignement, je dirais que c'est ce qui a été dit, mais je vais peut-être le dire avec d'autres mots, c'est l'acquisition de connaissances. Acquérir des connaissances factuelles, apprendre à connaître les traditions dans lesquelles on est né ou en tout cas qui nous sont plus proches et celles qui nous sont plus lointaines. C'est l'apprentissage du respect des convictions des uns et des autres, y compris des personnes qui n'ont pas de convictions religieuses. Donc c'est vraiment apprendre le dialogue. Ne pas oublier aussi que l'école est à peu près dans notre société un des seuls lieux où nous sommes vraiment tous ensemble, quelles que soient nos communautés justement religieuses. Donc c'est un des rôles de l'école d'enseigner ce dialogue. Et puis une ouverture sur les valeurs, ça a été dit, sur l'éthique, sur le sens, c'est-à-dire un espace où on offre une possibilité de débat. Aussi, et d'expression. Et où on expose les réponses des traditions religieuses et des traditions laïques, humanistes, sans dire ce qu'il faut croire. Mais on donne des éléments de réponse pour permettre à l'élève de former sa propre opinion au fil de sa vie scolaire.
Et puis il y a aussi plusieurs enseignants qui signalent à quel point certaines pratiques religieuses viennent entrer en interférence avec la vie scolaire. Alors évidemment, on pense au Ramadan, mais on peut penser à plein d'autres fêtes qui vont un petit peu modifier la vie de la classe. C'est aussi l'occasion de poser à plat ces choses-là.
Bien entendu, même si ça dépasse le cadre de la discipline, enseignement des religions, je pense que là les formatrices pourront vous donner des exemples précis. C'est que de manière générale, le religieux interfère avec notre vie en société, que ce soit à l'école ou ailleurs. Et il y a là aussi un travail à faire, notamment dans la formation des enseignants.
Ces buts, ces objectifs que vous venez tous d'exposer sont évidemment liés au positionnement affiché par les différents cantons en matière religieuse. En Suisse romande, il n'y a que deux cantons qui affirment leur laïcité. C'est Genève, on vient d'en parler avec vous, et c'est Neuchâtel. Christine Favert-Caputo, comment se situe officiellement le canton de Vaud par rapport à la laïcité, la neutralité, l'engagement au niveau légal?
Alors, le canton de Vaud n'est pas un canton laïque, puisqu'il n'y a pas de séparation stricte entre l'État et l'Église. Au contraire, l'État subventionne les églises officielles, donc l'Église protestante, catholique, ainsi que la communauté israélite, qui ont été toutes les trois reconnues d'utilité publique. Également, il y a un enseignement religieux de type non confessionnel à l'école et qui repose sur un article 53 de la loi scolaire, alors qui est un peu litigieux, puisque en fait cet article mentionne que cet enseignement doit être conforme aux principes du christianisme. Donc on voit quand même qu'il y a...
De quoi il date cet article ?
De la loi scolaire 1984. Alors c'est important de le préciser parce que la nouvelle loi scolaire est actuellement en consultation et elle devrait être votée en janvier 2011. Donc c'est très important. Pourtant, parce que ça risque de changer, d'autant plus qu'une motion a été déposée en 2009, octobre 2009, par le député Claude Schwab, pour justement non seulement rendre cet enseignement obligatoire, parce qu'actuellement il est soumis à dispense, donc les élèves qui en font la demande peuvent en être dispensés, mais également, et c'est important de le signaler, les enseignants qui ne se sentent pas appelés à donner cet enseignement-là. Donc cette motion qui a été déposée en octobre 2009 a été soumise au Grand Conseil. On a eu des rapports de majorité qui vont dans ce sens-là pour rendre la discipline obligatoire, comme c'est le cas déjà dans les cantons de Berne, Jura et Zurich, donc on voit qu'on n'est pas précurseur, hein, plutôt qu'on est suiveur dans le mouvement. Et puis également de changer l'intitulé de cette discipline, puisque actuellement elle s'appelle Histoire biblique et culture religieuse, donc on voit que l'accent est mis sur la Bible. Et ce serait plutôt l'idée de nommer cette discipline quelque chose comme connaissance des religions et d'ouvrir vraiment à plus de religions, même si c'est déjà le cas, hein, puisque les moyens en bureau sur lesquels on reviendra certainement tout à l'heure font une large part à l'interreligieux.
Sabine Girardet, vous vouliez réagir ?
Oui, je voulais juste ajouter une précision concernant le conforme au principe du christianisme. Il faut le resituer dans l'histoire. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque où ce texte a été rédigé, nous étions dans un canton majoritairement protestant et où tout d'un coup on donnait une place aux catholiques. Donc derrière le mot christianisme,
c'est
dans
une
cette
ouverture.
Loi, c'est une ouverture. Ça voulait dire déjà non confessionnellement marqué. Et ça ne voulait pas dire forcément catéchétique, mais on a tendance à le mécomprendre aujourd'hui. Il n'en reste pas moins qui doit être mis à jour.
Nicolas Vaillis, est-ce qu'on peut dire que le canton du Valais, lui, offre encore aujourd'hui à ses élèves un enseignement proche du catéchisme? Dans la loi de l'instruction publique valaisanne, sous l'article Mission générale de l'école, il est noté « L'école valaisanne a la mission générale de seconder la famille dans l'éducation et l'instruction de la jeunesse. À cet effet, elle cherche la collaboration des églises reconnues de droit public. Elle s'efforce de développer le sens moral, les facultés intellectuelles et physiques de l'élève, de le préparer en personne humaine et de préparer la personne humaine et chrétien. »
Je pense que c'est la loi la valaisanne effectivement qui donne ces éléments. Dans la réalité, il faut peut-être préciser en fait que le département a déjà pris des décisions pour que l'enseignement soit non confessionnel dans les écoles valaisannes, au niveau primaire et au niveau secondaire. Donc en fait, ce qui est demandé aux enseignants, c'est d'enseigner avec un bureau.
D'accord.
Dans tout le cursus scolaire, en précisant qu'il y a en fait une heure qui est donnée par des intervenants extérieurs des églises reconnues, donc soit catholiques, soit protestants, mais qui doivent aussi donner un enseignement non confessionnel. Et ça, c'est un peu l'ambiguïté du Valais, qui en fait envoie des gens par les églises pour donner un enseignement qui est non confessionnel. Mais c'est ce qui est formellement demandé.
On le disait, la loi vaudoise est en cours de rénovation, de réflexion. Est-ce qu'en Valais, cet article, quand même très connoté, hein, il faut former des bons chrétiens, est-ce que lui, il va être revisité ?
Alors, je ne peux pas décider pour le peuple valaisan.
Les discussions sont en cours.
Oui, c'est évident que c'est une discussion qui va se poursuivre et qui va s'approfondir. Je pense que le Valais garde quand même ce souci de transmission des valeurs judéo-chrétiennes. Et ça, je ne crois pas que ça disparaîtra. Je pense que c'est quelque chose en plus qui est partagé, qui me semble faire droit à la réalité. Dire qu'au fond, notre société, elle est basée sur des valeurs judéo-chrétiennes.
De là à vouloir faire des élèves des chrétiens dans une société quand même passablement multiculturelle.
Et de fait, c'est déjà plus ça, puisque l'enseignement n'est pas chrétien. Il est déjà non confessionnel. Mais c'est vrai, je pense que c'est plutôt un problème de langage pour pouvoir dire, en fait, il y a des valeurs auxquelles on tient et sur lesquelles on voudrait pouvoir former des futurs élèves. Et puis je pense que c'est en termes... c'est une loi qui date des années 60 et qui explique
c'est
en fait...
C'est connoté d'ailleurs, années 60. Hein.
Pour le moins. Donc on voit en fait encore cette couleur. Alors la loi, quand elle va être retravaillée, j'imagine que c'est des éléments qui vont être réfléchis de façon différente.
Christine Faver-Capoteau, vous vouliez réagir là.
Oui, alors je voulais juste d'abord apporter un petit complément à la situation vaudoise, parce qu'il y a une directive 112 du département qui date de 2008 qui autorise en fait les pasteurs, les curés, les agents pastoraux, les diacres à entrer dans les classes vaudoises. Donc en fait, on n'est pas dans un modèle complètement non confessionnel, si on veut bien, même si cet enseignement, en fait, ces personnes qui viennent, c'est plutôt pour accompagner les enseignants, de les soutenir, mais dans un but non catéchétique. Hein. Donc voilà, quelque chose à préciser d'abord. Et ensuite, peut-être par rapport à la situation valaisanne, le canton de Vaud, c'est vraiment un canton qui est multiculturel. Hein. On a bien entendu deux grands groupes chrétiens, protestants, catholiques, pour faire court, mais on a des orthodoxes, on a des juifs, on a des musulmans et on a un certain nombre d'autres communautés
et
chrétiennes.
Et des athées.
Et voilà, des gens qui se déclarent sans appartenance ou qui ne donnent pas d'indication, et c'est un fort pourcentage parce que les sans appartenance, c'est quand même 15% de la population au dernier recensement de 2000, et on ne sait pas, en 2010, ça risque peut-être encore d'augmenter. Donc on n'est pas non plus dans la même situation qu'en Valais où il y a une plus grande homogénéité au niveau du christianisme.
Sabine Girardet ?
Moi, je veux juste encore dire par rapport au vaudois que effectivement les ecclésiastiques peuvent entrer dans l'école, mais il faut rappeler que c'est une fois par cycle, donc c'est une fois tous les 2 ans ou une fois par année, donc c'est vraiment très très peu. C'est de l'ordre d'une visite, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour enseigner la discipline.
Alors j'aimerais bien qu'on en vienne au contenu de cet enseignement, savoir ce qu'on donne à manger à nos enfants. Je vous rappelle d'abord que vous pouvez poser des questions à nos 4 invités en nous appelant au 0840 222 123 ou alors en nous envoyant un mail à l'adresse babylone@rts.ch. Contenu donc, avec d'abord le choix de l'étiquette, de la terminologie, parce que vous le disiez Christine Faver-Caputo, dans le canton de Vaud, ça s'appelle encore histoire biblique. Comment est-ce que ça s'appelle dans les autres cantons, en Valais par exemple, Nicolas Vaïs?
En Valais, on parle d'enseignement religieux au sens générique. Donc un enseignement sur les religions. À l'origine, l'intention était certainement pas celle qu'on lui donne aujourd'hui. Mais de fait, c'est assez agréable de travailler avec ce terme-là parce que si on le prend en générique, un enseignement religieux sur les religions, ça nous permet vraiment d'avoir un éventail assez large.
Et alors à Genève, Frédéric Wittwerk, c'est le terme « fait religieux » hein, qui est censé être intégré dans les autres...
C'est le fait religieux qui sera intégré dans des développements, donc dans les autres cantons. Si on se réfère au plan d'études romans hein, qui va être mis en œuvre en 2011...
Et dont on parlera tout à l'heure avec Mme Baumschneider.
Il y a une partie de ce plan d'études qui est facultative pour les cantons, qui s'appelle « Éthique et culture religieuse ». Ça, c'est la dénomination. À Genève, il n'y aura pas de cours d'éthique et de culture religieuse. Il faut savoir que dans un certain nombre de domaines et de disciplines, en histoire, en français, en éducation citoyenne, on traite d'un certain nombre de questions qui sont traitées par ailleurs dans ce domaine éthique et culture religieuse, si on se réfère à ce plan d'études. Alors, à Genève, on a toujours dit, et ça a été répété donc par les gouvernements successifs, qu'on ne prévoit pas dans la grille horaire comme un cours identifié, un cours d'éthique, de culture religieuse, d'histoire des religions, du
fait
religieux.
Qu'est-ce qui justifie ce choix?
Mais ce qui justifie ce choix, c'est que on peut aborder toutes ces questions à travers les autres domaines, à travers l'histoire, à travers l'éducation citoyenne. On parlait de la loi, enfin des différentes lois. La loi sur l'instruction publique genevoise, elle vise, dans son article, à ce que l'enseignement public a pour but de préparer chaque élève à participer à la vie sociale, culturelle, civique, politique et économique du pays dans le respect d'autrui. Ça veut dire que lorsqu'on enseigne le français, lorsqu'on aborde le livre de français actuellement en 7e année, il y a un texte, il y a des extraits de la Bible, il y a des extraits de textes fondateurs, et par conséquent, on aborde toute une série de problématiques, de questions sous cet angle. Donc ce qui est prévu à Genève, parce que alors, évidemment, quand on dit c'est dans les disciplines, le grand risque, et c'est ce qu'on observe, c'est qu'on passe à côté d'un certain nombre de choses.
C'est un des grands
risques.
Et donc
l'objectif pour Genève, c'est de créer, si je puis dire, à travers l'étude de grands textes qui seront inscrits, comme un développement genevois qui se substitue, je dirais, à notre manière, à ce cours d'éthique et de culture religieuse qu'on trouve dans d'autres cantons. Par cette étude des grands textes, on crée en fait des passages obligés, des passages de textes, mais aussi des passages de cours et des interventions, de manière à ce qu'on puisse, dans le cadre de cette formation générale, de cette formation de culture générale, garantir qu'après 11 années de scolarité obligatoire, parce que ce sera 11 années de scolarité obligatoire, les élèves sont dotés de ce bagage de connaissances, de cette approche qui tient compte, effectivement, non seulement des religions, non seulement des religions monothéistes, mais aussi par cette approche historique, un peu anthropologique, aussi des croyances, de ce qui s'est passé aussi dans les formes de tribus plus primitives, de l'athéisme, qu'est-ce que c'est ? Et aujourd'hui aussi un peu de tout ce qui sont ces religiosités nouvelles. Hein, on va parler, bien entendu, du créationnisme, qu'est-ce que c'est, pourquoi on en parle, etc. Donc véritablement, alors les textes fondateurs, ce ne sont pas seulement des textes religieux, mais ce sera des textes, bon, d'abord la Constitution, Ce sera des textes qui ont marqué, qui ont fondé, qui ont traversé l'histoire et qu'on ne peut simplement pas ignorer.
Donc qu'on comprenne bien, vous allez créer un corpus de textes qui seront imposés aux différents enseignants de français, d'histoire, de géographie, d'éducation citoyenne, de philosophie pour les plus grands et voilà, qui intégreront...
Absolument.
Alors est-ce que là, les professeurs, comme dans le canton de Vaud, pourront dire « Non, 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 moi je ne touche pas à ça ».
Alors, j'aimerais juste réagir à ce que vous avez dit, parce qu'en fait, ce genre de programme s'adresse plutôt à des élèves plus grands, en fait, du secondaire 1. Alors, qu'en est-il, alors, en fait, pour les plus petits? Parce que l'enseignement qu'on a ici dans le canton de Vaud, il s'adresse prioritairement aux élèves de première à sixième année, donc de 6 à 12 ans. Et là, c'est difficile d'aborder des grands textes et leur analyse avec ces élèves-là. Et puis aussi, on se coupe de d'autres moyens, comme la narration, par exemple, pour les plus petits, qui est beaucoup plus utile. On se coupe aussi de d'autres moyens, comme la musique, la peinture, l'image, qui sont aussi des héritages importants dans les religions. Et puis encore une autre chose dans laquelle on se prive peut-être par ce biais-là, dans l'enseignement d'histoire biblique ici dans le canton de Vaud, on a une partie qui est dédiée à l'existentiel. Donc c'est toutes les grandes questions que les enfants peuvent se poser autour de leur existence, la vie, la mort, la souffrance, pourquoi je suis là, où je vais après. Et puis je me demande si ces grands textes, surtout avec des petits élèves, peuvent aider à répondre à leurs questions en fait. Donc,
vous avez raison de préciser effectivement ce que j'ai décrit là, ça concerne principalement les 12-15 ans.
Donc le cycle,
donc
je
le
vois.
Cycle d'orientation. Mmh. Il est évident que les questions que vous venez de poser, elles sont abordées, elles doivent être aussi abordées, ces discussions avec les élèves, ces discussions qui touchent le sens, ces aspects universels, elles sont aussi abordées dans l'enseignement primaire, mais par exemple, dans le développement de ce qu'on appelle l'éducation aux citoyennetés, des activités aussi, évidemment quand on arrive... vers les fêtes religieuses, la fête de Noël, comme ça, il faut doter les enseignants, et c'est aussi un travail qui est prévu, de cette capacité de répondre. On a vraiment une situation, comme dans le canton de Vaud, et je dirais encore de façon beaucoup plus spectaculaire, puisque, juste pour donner un chiffre, si on prend le nombre de classes dont les parents ont une diversité culturelle importante, donc le nombre de classes, il y a au moins 30% qui ne sont pas de la culture, je dirais, locale, eh bien, il y en a 80% des classes genevoises, alors que c'est 30%, par exemple, en Valais ou à Fribourg. Mmh. C'est entre les deux, bien entendu.
Ça, c'est une des raisons pour lesquelles vous avez décidé de ne pas donner une heure précise avec un enseignement spécifique, des maîtres spécifiques aussi, à cette question de l'histoire de la religion.
C'est un peu la conséquence de la façon dont on aborde les choses, qui dit on va pas mettre une heure comme ça. C'est vraiment pour dire aussi, c'est l'affaire, si on pose la question aux enseignants, c'est l'affaire de tous les enseignants. D'une certaine manière.
Alors on y reviendra à la formation des enseignants, parce que du coup que c'est l'affaire de tous les enseignants, il faut encore voir comment est-ce qu'on peut former tous les enseignants à être compétents, à être adéquats pour enseigner ces questions qui sont peut-être un petit peu plus sensibles tout de même que d'autres. Absolument. Nicolas Vaïs, vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, je voudrais peut-être parler de l'expérience fribourgeoise pour le secondaire 1 en particulier, parce que... La conseillère d'État, Mme Chassot, a rendu obligatoire en 9e année un cours d'éthique et culture religieuse pour tous les élèves. Et puis c'est assez intéressant de voir que la demande est venue des enseignants d'avoir un manuel. Parce qu'effectivement, quand on n'a que des grands principes, c'est extrêmement difficile d'enseigner. Et c'est un travail qui a été fait avec les enseignants du secondaire 1 pour créer un manuel qui réponde en fait aux besoins sur ces grandes questions. Donc liberté, il y a connaissance des religions, disons, les libertés, violence, paix, et puis toutes les questions personnelles que les élèves peuvent se poser. Vraiment un travail comme ça, un outil en fait de réflexion.
Donc là, on est très loin de la culture et de l'histoire des religions. On est dans l'expérience, on est dans la morale, on est dans l'éthique.
Parce qu'il y a cette partie de réflexion, puis il y a tout un travail effectivement sur les textes qui est aussi fait. Les textes sont donnés, sont travaillés, sont réfléchis pour que les élèves en fait aient une base pour leur propre réflexion.
Et tout ça dans un canton où, jusqu'à nouvel ordre, il y a une heure de catéchisme, c'est peut-être pas exactement le terme, mais enfin une heure qui est donnée encore aujourd'hui par des intervenants de l'église.
Alors il y a toujours les deux à Fribourg. Il y a une heure de catéchisme donnée par les églises et puis une heure qui est un enseignement non confessionnel, en tout cas pour le primaire et pour le secondaire 1.
Alors ça signifie que les enseignants qui ont demandé d'avoir cette heure supplémentaire pour aborder ces questions questions existentielles, estimaient que dans l'heure donnée par les religieux, on ne répondait pas à ces questions.
Non, le processus était un petit peu inverse. Mm-hmm. C'est-à-dire que l'heure a été imposée par le département. C'est rendu obligatoire par le département parce qu'en fait, il y avait toute une série d'élèves qui ne suivaient pas les cours qui étaient le cours de religion et qu'il fallait bien leur proposer quelque chose. Il ne suffisait pas de les mettre en étude, surtout que le nombre devenait croissant.
D'accord.
On ne pouvait pas juste se contenter de quelque
chose.
Ça,
c'est la question de ces cours facultatifs, justement. Dans quelle mesure est-ce qu'on estime que ça fait partie du bagage à donner à tous les enfants, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent ? Dans quelle mesure on estime que, puisque l'enseignement est quand même confessionnel, alors on en libère les athées, les musulmans et les orthodoxes, etc.
Tant que la visée est confessionnelle, on n'a pas le choix. Mmh. On ne peut pas obliger un enfant, quel que soit son âge, de suivre un cours dans la mesure où il est confessionnel. Ça me semble évident.
C'est dans la Constitution d'ailleurs, hein. C'est
oui,
l'article 15
l'article
de la Constitution
15.
Fédérale. Nul ne peut être contraint de suivre un enseignement religieux.
Voilà. Maintenant, quand on part dans un enseignement qui est non confessionnel et qu'on crée des outils pour ça, il me semble qu'on peut quand même dire que c'est une nécessité pour une personne, pour un citoyen, d'avoir ces connaissances. Mais là, je dirais que, en tout cas pour ma part, sans outils et sans une heure précise, ça me semble difficile.
Mm-hmm.
Sabine Girardet. C'est déjà pas facile.
Oui, je voulais aussi réagir sur ce point pour d'abord prendre un tout petit peu de hauteur et rappeler que la question de soit un enseignement à titre de discipline spécifique ou un enseignement fondu dans d'autres disciplines, c'est une question qui dépasse la Suisse. Je dirais quand même que de manière générale, c'est plutôt en faveur de la discipline spécifique que ça se dessine. Le fait de placer dans les autres disciplines, ça ressemble aussi au discours de la France, mais qui est un peu minoritaire.
Où le débat est aussi assez vif. Hein.
Absolument.
Mmh.
Mais mmh. qui est assez minoritaire dans cette position. Dire aussi que, parce que c'est mon travail, ça fait plus d'une dizaine d'années que je m'évertue à essayer de faire des moyens d'enseignement qui justement permettent aux enseignants d'aborder ces questions qui sont sensibles. J'aurais une mise en garde à faire pour une position comme celle qui est en train de se faire du côté de Genève. Je crois qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte que la discipline académique histoire et sciences des religions est une discipline qui s'est construite depuis un certain nombre d'années et qui possède aussi un certain nombre d'outils spécifiques. Et moi, j'ai juste un petit souci. Je trouve très intéressant l'approche aussi dans d'autres disciplines. Fondamentalement, je pense que tout est possible. Mais mon souci, c'est d'être sûr que les personnes qui élaborent les moyens d'enseignement soient au fait de ce qui se fait dans la recherche. Et que je pense par exemple aux moyens de français que vous avez cité tout à l'heure. Je vous avoue que moi j'ai été un peu surprise de le découvrir parce qu'au début il présente des éléments de chronologie biblique comme si tous les personnages étaient des personnages historiques, ce qui se fait dans des moyens d'histoire à la française, mais qui ne passe plus du tout aujourd'hui en histoire des religions parce que toutes ces questions ont été largement remises en cause. Mmh. Donc ça manque un tout petit peu de nuance. Donc moi j'aurais juste le souci de dire on peut faire ça, mais attention à s'adresser aux bonnes personnes, c'est-à-dire les personnes qui sont formées aussi avec les outils de cette discipline et qui ne sont pas, par exemple, des historiens purs.
Frédéric Wittwer, voilà, vous avez à répondre là.
L'équipe d'enseignants et d'experts en particulier aussi de l'Université de Genève, l'histoire des religions, donc ils travaillent sur ces grands textes, et donc on n'exclut pas du tout, à terme, sur la base aussi de ce qui a été fait dans d'autres cantons. On est quand même dans un processus d'harmonisation, et puis personne ne dit à Genève, comme ailleurs, que les outils, les moyens d'enseignement qui ont été élaborés, y compris bien entendu en bureau, c'est des moyens qui nous intéressent pas du tout. Il est évident qu'à un moment donné, alors on parle de ce qu'il y a maintenant dans un livre de français qui est distribué dans toute la Suisse romande, mais évidemment c'est justement tout le travail à faire, c'est cette approche critique et l'outillage donné aux... Parce que les enseignants, ils vont nous poser des questions, ils nous posent des questions, ils travaillent dans ce... c'est pour ça qu'on ne peut pas être trop précis sur... Quel sera finalement ce complément ?
C'est en cours d'élaboration. Encore.
C'est en cours d'élaboration à Genève. Mais je peux vous garantir qu'on a vraiment un niveau, je dirais, de questionnement et d'expertise qui nous permettra, je crois, de faire vraiment des pas en direction aussi de ce que vous expliquiez tout à l'heure s'agissant du développement à Fribourg, notamment. Et il faut absolument ces garanties et il faut absolument que les enseignants se sentent préparés, se sentent à l'aise, qu'ils puissent bénéficier, je dirais, de soutien pour que ça ait du sens et pour que ça se déroule vraiment dans les objectifs que j'ai rappelés tout à l'heure.
Ça, c'est les deux grandes questions que j'aimerais qu'on aborde, à la fois le matériel pédagogique utilisé dans les classes et puis la formation des enseignants, parce que ça va un petit peu de pair, la distanciation aussi de l'enseignant par rapport à la matière qu'il enseigne. Sabine Girardet, vous êtes donc co-responsable de ces éditions en bureau. Ce sont plusieurs manuels qui s'adressent à plusieurs classes d'âge, qui abordent la religion sous plusieurs angles. Les religions, je devrais dire, vous pouvez nous présenter en deux mots déjà le contexte dans lequel ces éditions ont créé le matériel pédagogique qui est aujourd'hui utilisé. Qui écrit ces manuels? Quels sont les fameux experts dont vous venez de parler?
Tout à fait, je vais essayer de faire vite. Rappelez peut-être juste d'abord qu'Enviro est une association qui regroupe la plupart des DIP et des cantons romands. C'est peut-être le premier point important.
Quand vous dites la plupart, c'est tout le monde?
C'est-à-dire tout le monde sauf Genève et Neuchâtel.
D'accord, les deux cantons laïcs.
Voilà, les deux cantons, il y a une séparation stricte entre Église et État et où il n'y a donc pas de discipline spécifique. Par contre, les autres cantons ont une discipline spécifique et se sont donc regroupés dans cette association dans un souci de concertation pour créer effectivement du matériel pédagogique.
Les églises n'ont pas leur place dans l'association?
Les églises ont aussi leur place dans l'association. Elles ont ainsi leur mot à dire sur les contenus des moyens. Et puis, si vous voulez, cette association possède une maison d'édition. Et là, c'est là que nous, les professionnels de l'édition, on entre en scène. Notre métier consiste vraiment à concevoir, réaliser ces moyens d'enseignement qui sont des projets assez colossaux d'ailleurs, puisqu'ils sont romans. Et donc, il faut mettre beaucoup de monde autour d'une table et il faut que tout le monde se mette d'accord.
Oui, puis on l'a compris, le fédéralisme est fort.
Le fédéralisme est fort. Et puis, le sujet, par ailleurs, est un sujet extraordinairement sensible. Donc, ce sont des moyens d'enseignement qui, si vous voulez, sont particulièrement filtrés par rapport à d'autres disciplines. Ce qui signifie que nous travaillons effectivement toujours en équipe, si on veut, multidisciplinaire. On va rassembler des enseignants des degrés concernés, des spécialistes académiques, toutes sortes de personnes avec qui nous allons construire des moyens d'enseignement qui vont être, jusqu'à ce qu'ils entrent dans les classes, soumis à un processus extrêmement long et complexe, où il faut user de beaucoup de diplomatie quand on occupe la place qui est la mienne, parce qu'il faut aller écouter un peu les uns et les autres, et faire en sorte de faire un moyen d'enseignement qui fédère au maximum, gérer tous les acteurs concernés. Le but étant que ces moyens d'enseignement soient bien reçus, non seulement par l'école, mais aussi par les familles, parce qu'il ne faut pas oublier que ce matériel rentre dans les maisons, les foyers, et qu'à partir de là, c'est la raison pour laquelle nous avons toutes sortes de validations sur ce matériel, pédagogique, je l'ai dit, académique, mais nous avons aussi des représentants des communautés religieuses, à qui sont soumises toutes les pages qui parlent de toutes les communautés, non pas pour qu'ils nous disent ce que nous devons faire, parce que ça, c'est le rôle de l'école.
C'est vous qui le savez.
Mais pour que nous soyons sûrs qu'on respecte leur sensibilité.
Alors, on peut dire en quoi ça consiste, parce que ça, c'est le principe.
Ça, c'est le principe.
Ces manuels, moi, je les ai eus entre les mains. Il y en a, vous avez par exemple édité un calendrier des fêtes de toutes les religions, un manuel autour de la création du monde. C'est tout un développement pédagogique qui va de la première primaire à la neuvième.
Effectivement, c'est un vaste programme qui devrait couvrir à terme toute la scolarité obligatoire. Les moyens d'enseignement qui sont actuellement dans les classes ont été introduits à partir du début des années 2000. Et ils ont vraiment été profondément repensés par Enviro pour répondre à toutes les questions que nous soulevons ce matin, c'est-à-dire à la fois transmettre un certain nombre d'éléments de la mémoire du judéo-christianisme, apprendre à connaître les textes fondamentaux, mais aussi découvrir les autres religions du monde. Donc effectivement, suivant l'âge des élèves, on va faire tout cela, mais de manière différente.
Il y a une chose qui m'a interpellée dans le manuel autour de la création du monde. Déjà la couverture, parce qu'il y a des arbres et puis des étoiles au plafond. On se dit, ça a l'air un tout petit peu ésotérique. Et puis alors, dans ce manuel d'approche autour de la création du monde, où vous abordez évidemment le créationnisme, mais aussi d'autres récits fondateurs du monde, vous consacrez un chapitre entier au Big Bang et à la version scientifique de la création du monde. Alors à la fois on se dit mais c'est très bien parce que ça permet de confronter mythologie et science, et puis à la fois moi je me suis quand même demandé si là on n'est pas dans une espèce de relativisme un tout petit peu dangereux.
Alors le but, il est effectivement le premier que vous avez cité tout à l'heure, c'est vraiment de dire nous sommes dans une société qui est plurielle et dans une école qui l'est aussi. Et donc à partir de là, quand on touche le sujet des origines du monde, il est important avec les élèves de montrer qu'il y a plusieurs manières d'aborder ce sujet. Et c'est vraiment ça, ce qu'il y a derrière un moyen comme celui-là. C'est de montrer que ces manières de l'aborder ne sont pas forcément antagonistes. C'est-à-dire qu'on peut aborder toutes ces façons, mais elles n'ont pas le même point de vue et elles ne répondent pas aux mêmes questions. Voilà ce qui a été effectivement le choix. La nôtre, je ne vous cache pas qu'évidemment c'est un sujet qui est très sensible, celui-ci, et que ça a suscité beaucoup de discussions à l'intérieur de l'association. Mais effectivement, le choix a été fait de dire on ne va pas passer sous silence le récit et la vision scientifique des choses, parce qu'il est important que les élèves qui l'apprennent aussi par ailleurs en sciences,
j'espère,
retombent sur ce récit ici et puissent voir qu'il y a ces différentes façons de voir le monde.
Il y a Madame Baumschneider qui nous a rejoint à Delémont. Avant de vous donner la parole, Madame Baumschneider, déjà je vous dis bonjour.
Bonjour.
Avant de vous donner la parole, j'aimerais qu'on parle quand même de la formation des maîtres, puisqu'on a autour de la table deux responsables, deux didacticiennes de l'histoire et de la science des religions. Comment est-ce que vous formez les maîtres à aborder ces questions à travers le manuel en bureau? Quels sont les grands messages que vous transmettez aux maîtres pour qu'ils soient justes, adéquats dans cet enseignement? Nicolas Vaïs ou Christine Favert-Caputo?
Nicolas Vaïs. Il me semble que quand on doit former les enseignants, en fait, la difficulté, c'est de leur donner des moyens. Ils sont souvent assez dépourvus au niveau des connaissances. En tout cas, c'est mon expérience. Souvent, ils ne connaissent pas. Donc d'avoir à disposition du matériel comme en bureau, c'est presque le salut qui leur est donné pour leur enseignement, parce qu'ils ont à disposition un matériel sur lequel ils peuvent réellement s'appuyer. C'est-à-dire qu'ils trouvent en fait dans la méthodologie suffisamment d'informations pour pouvoir enseigner, mais après faire des recherches.
Ça concerne le contenu. Oui. Maintenant, par rapport à leur posture d'enseignant dans une école qui se veut quand même non confessionnelle.
Alors, en tout cas, pour ma part, difficile de parler pour tout le monde, mais pour ma part, c'est très important qu'ils se positionnent de façon non confessionnelle. C'est-à-dire qu'ils doivent apprendre, si on demande aux élèves de le faire, encore plus aux enseignants, ils doivent apprendre à respecter les autres, apprendre à respecter toutes les prises de position des enfants dans leur classe, ce qui n'est pas facile parce qu'ils ont un rôle d'autorité. Donc il faut qu'ils gardent leur rôle d'autorité tout en étant suffisamment respectueux pour chaque enfant et que chacun puisse vivre sa propre foi à travers les éléments qu'ils vont recevoir en termes de connaissances.
Est-ce que vous leur dites, par exemple, d'expliciter leurs croyances à eux? Est-ce que c'est dans les conseils qu'on donne aux enseignants pour être clair avec tout le monde?
Alors, moi, je leur dis qu'il y a deux possibilités et que c'est à eux de se définir eux-mêmes. Soit ils affirment au départ leur propre conviction en disant que voilà, c'est ma propre foi qui me concerne et je vais vous enseigner en fait des choses qui sont des choses scientifiques et qui ne sont pas ma propre foi. Soit de ne pas le dire pour laisser les enfants vraiment libres. Après, ça dépend à chaque enseignant, aussi de sa propre position. Ce n'est pas facile pour un enseignant de se positionner. Ils ne sont pas toujours clairs. Que souvent, ils ne savent pas très bien eux-mêmes ce à quoi ils croient, donc c'est un petit peu difficile. Peut-être le dernier point, après je passerai la parole à Christine, c'est aussi, il me semble très important de leur donner un esprit critique.
C'est-à-dire que... Aux enseignants ou aux élèves?
Aux enseignants d'abord. C'est-à-dire qu'on leur donne du matériel, c'est super, mais ils doivent être aussi capables de pouvoir réagir par rapport à d'autres matériels qu'ils reçoivent, par rapport à la prévention, par rapport aux dérives sectaires, par exemple. Ils doivent quand même pouvoir réagir, avoir quelques moyens. Et puis en Valais, ils ont aussi des compléments valaisans qu'ils doivent enseigner. Donc ils puissent aussi connaître ces éléments, se positionner personnellement et faire leur propre choix d'enseignant. En étant le plus responsable possible.
Christine Favert-Caputo, vous êtes enseignante à la HEP du canton de Vaud.
Alors, ça rejoint beaucoup ce qu'a dit Nicole Giroux, Weiss. Peut-être juste quelques compléments d'information. D'abord, préciser qu'en fait, cet enseignement est d'abord destiné aux élèves de première à sixième année dans le canton de Vaud. Donc, c'est pour des enseignants qui sont généralistes, donc qui ont toutes les disciplines à enseigner. Ce ne sont pas des spécialistes de la religion et leur formation est relativement succincte, puisque en 7-8-9, on n'a actuellement pas d'enseignement à la grille horaire. Il y a juste des journées de culture chrétienne qu'on peut mettre en place ou pas dans les établissements et qu'on retrouve cet enseignement. Alors, par contre, au gymnase, sous forme d'options, ça s'appelle Histoire et Sciences des Religions, mais là aussi, c'est optionnel, ils rencontrent beaucoup de succès. Donc pour revenir à la formation des enseignants d'abord primaire, on travaille beaucoup sur la posture, c'est-à-dire que je leur rappelle l'article 45 de la Constitution cantonale qui date de 2003, qui rappelle que cet enseignement, il est neutre, confessionnellement et politiquement. Donc au niveau déontologique, on leur demande de ne pas se positionner tant au niveau de leur couleur politique qu'au niveau de leur croyance, pour laisser, en fait, justement, comme le disait Nicole, hein, de laisser les élèves pouvoir s'exprimer correctement. D'ailleurs, on rappelle que cet enseignement, pour les agents publics, il est neutre, hein, ils ne peuvent pas aborder des signes religieux comme le voile, un crucifix, une kippa. Donc ce qui est le cas pour les élèves n'est pas le cas pour les enseignants, donc on n'a pas du tout la même posture qui est attendue. Il y a un manque criant de connaissances. Hein. La formation, elle est très très courte. Elle consiste en tout et pour tout, de 36 heures sur 3 ans. Donc on imagine bien qu'on ne peut pas faire grand-chose en si peu de temps. C'est pour ça que je salue les moyens en bureau qui sont vraiment clés en main. Toutes les connaissances de base se
retrouvent du maître,
dans
manuel
les manuels
de l'élève.
Et surtout dans la méthodologie pour l'enseignant. Parce qu'il ne faut pas rêver. Comme c'est une heure qui est facultative, l'enseignant n'a pas de notes à mettre. Alors souvent, il la sabre pour mettre autre chose à la place. Donc s'il devait commencer à faire des recherche pour se mettre à jour au niveau des connaissances religieuses, il ne la donnerait pas. Donc ça, c'est peut-être la grande force des moyens en bureau.
Merci. Elisabeth Baumschneider, donc vous nous avez rejoint à Delémont. Vous êtes directrice du département de l'instruction publique jurassien et surtout, vous présidez la C2IP, la conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin. C'est long à dire. Est-ce que les débats ont été tendus sur la thématique religieuse au moment de la mise en place de ce nouveau plan d'études romand?
Alors je dirais pas du tout, dans la mesure où au niveau du PER, il y a une liberté.
PER, c'est donc plan d'études roman, hein, je décris.
Voilà, oui, tout à fait. Pas. Excusez-moi. Le PER, c'est le plan d'études roman.
C'est pas le Saint-Père.
On a maintenant une formulation qui dit pas de PER sans mère. Donc, les mères, ce sont les moyens d'enseignement roman. Donc, c'est toujours aussi une question. L'école doit pouvoir dialoguer avec les parents, avec la société civile. Et puis, parfois, on est un peu enfermé dans nos propres formulations. Donc, tout ça pour indiquer que le plan d'études roman n'est pas du tout une uniformisation en tant que telle de toutes les branches, mais vise bien à l'harmonisation. Et puis, il y a une volonté d'avoir une discipline éthique et culture religieuse, mais qui est, entre guillemets, à la libre appréciation des cantons. Donc
dans il
le
n'a
peu
été
que
à
j'ai
où...
entendu, malheureusement, je n'ai pas pu participer au début de l'émission occupée que j'étais à répondre aux questions orales au Parlement jurassien. Mais donc, ça fait vraiment partie des spécificités cantonales. Donc, chaque plan d'études cantonal peut organiser, entre guillemets, la place qu'il souhaite réserver à l'enseignement soit de l'histoire biblique, soit du fait religieux, soit de l'histoire des religions. Et je dois bien dire qu'au niveau jurassien, nous avons eu un débat des plus animés lorsque nous avons modifié la loi scolaire, mais extrêmement intéressant, débat qui allait jusqu'à la Cour constitutionnelle, parce que la volonté du législateur et de l'exécutif jurassien était de proposer un enseignement de l'histoire des religions afin de renoncer à la dispense. Parce que je crois que tous mes collègues
histoire de l'instruction
publique
obligatoire
seront d'accord de dire que l'histoire du fait religieux ou bien l'histoire des religions, avec un accent ou non sur le christianisme, c'était le grand débat chez nous également, vise à augmenter la tolérance et à lutter contre les dérives de l'intégrisme. Et actuellement, donc, on a mis en place depuis la rentrée scolaire, cette histoire des religions. Nous n'avons plus aucune demande de dispense. D'ailleurs, il n'y aurait pas de possibilité pour un parent de demander la dispense, mais on devrait vérifier que l'enseignant soit extrêmement neutre, attentif à ne pas être dans le prosélytisme ou bien dans une non-observation de la liberté confessionnelle ou liberté tout court de ne croire, entre guillemets, à aucune religion. Je voyais avant, vous parliez d'exprimer sa foi. Certains ne veulent pas l'exprimer parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas, il y a des agnostiques et autres. Donc, c'est vraiment ça le débat, à mon avis, au niveau de l'école publique. C'est de donner des outils de compréhension pour éviter les intégrismes, pour l'ouverture à la tolérance, à la compréhension du fait plus cultuel que culturel. Donc, le débat est extrêmement intéressant, alors qu'on voit qu'on passe des heures et des heures et des heures à parler de l'interdiction de la burqa. Il est beaucoup plus important de parler des moyens à mettre à disposition des élèves, des futurs citoyens, des enseignantes et enseignants, pour avoir un vrai débat de société sur l'éthique et nos valeurs.
Elisabeth Baumschneider, vous disiez au niveau du plan d'études roman se perd, la liberté est laissée au canton. Est-ce qu'on peut dire que c'est un non-choix parce que ça aurait été en fait beaucoup trop compliqué de chercher à harmoniser au-delà de ça ?
Non, je ne crois pas que c'est un non-choix, je crois que c'est un
processus. Tout le monde opine du chef ici, hein. Tout le monde fait la grimace.
Non. Moi, je ne pense pas, parce qu'il y a véritablement lieu de respecter, sur des questions aussi sensibles, le côté historique, et puis où en est chaque école dans son débat avec ses partenaires sur cette question sensible. La solution jurassienne, je dois dire, me paraît extrêmement intéressante, parce que on a donc l'histoire des religions comme branche spécifique pour le moment à l'école primaire, avec une note d'ailleurs. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut bazarder en se disant je préfère faire de l'environnement ou autre.
C'est donné par des maîtres spécifiques aussi. Vous dites que c'est un enseignement spécifique, c'est donné par les enseignants, les instituteurs.
Non, ça a été relevé très justement, c'est donné par des généralistes. Mmh. Par contre, on accepte, on admet, comme pour toute autre branche, qu'il y a une équipe pédagogique. Et puis, c'est beaucoup mieux qu'une enseignante ou un enseignant qui ne se sent pas l'envie ou bien l'intérêt pour enseigner l'histoire des religions, qu'il ne l'enseigne pas. Je veux dire, l'important, c'est de se sentir à l'aise dans le message qu'on veut transmettre. Et puis, c'est extrêmement important de distinguer ce qui est de l'ordre de l'histoire biblique, où il y a quand même une composante peut-être un peu plus de prosélytisme, et l'histoire des religions en tant que telles. Et par exemple, à l'école jurassienne, il y a du catéchisme qui n'est pas du tout donné par les enseignants, qui a lieu dans des classes pour des questions d'organisation.
Mais qui n'est pas inscrit à l'horaire de l'élève.
Pas du tout. Puis on a des grands débats pour savoir si on donne des informations via le canal scolaire. Alors pour le moment, on estime que c'est tout à fait correct, comme on donnerait d'autres informations. Comme on accepte les congés religieux pour la confirmation, que ce soit pour les catholiques, qu'on est un canton catholique, ou les réformés, ou des congés qui seraient demandés par des musulmans ou par des juifs. Mais je veux dire, c'est une ouverture, mais avec cette question très, très ferme de ne plus entrer en matière sur des demandes de dispense par rapport aux cours. Alors qu'avant, si un parent estimait qu'il était heurté dans sa sensibilité de liberté de croyance, automatiquement l'élève obtenait la dispense. Mmh. Il faut peut-être aussi dire que la plupart du temps, les élèves sont très curieux et friands, somme toute, de comprendre, l'histoire des valeurs et de l'éthique, soit de leur région. On peut aborder cette question de manière multiple, hein, pas simplement par rapport au texte des différents courants religieux. Donc, je ne crois pas que c'était un non-choix, mais j'ai le sentiment qu'il est effectivement plus aisé d'avoir un plan d'études commun au niveau des mathématiques ou bien du français. Ou bien
il y a moins de sensibilité à ménager quand même, hein, pour les maths.
Oui, et puis je pense que le rôle de l'école est plus simple à ce niveau-là que dans ces domaines extrêmement sensibles, mais néanmoins importants, des valeurs. Donc peut-être qu'à terme, on s'appropriera les bonnes pratiques des différents cantons. Je sais aussi qu'à Fribourg, il y a la cohabitation entre l'histoire aussi, je ne sais pas comment ça s'appelle, du fait religieux, puis l'histoire religieuse. Et on voit qu'il y a un intérêt de plus en plus marqué pour l'histoire du fait religieux, quoi. Donc c'est aussi intéressant de se dire qu'est-ce qu'on attend de l'école. Mmh.
En deux mots, 20 secondes, est-ce que la formation des enseignants avec le PER et avec Armos va être modifiée? Est-ce que là, il y aura harmonisation?
Alors, immanquablement, les HEP, donc les hautes écoles, et puis du côté de Genève, c'est une formation dans un autre contexte, vont devoir s'ajuster. Mais je veux dire, il n'y a pas une possibilité d'avoir ni un même statut, ni une même grille horaire, ni une même formation. Mais à terme, il faudra bien sûr qu'on entre dans des processus également d'harmonisation, parce que tout ne pourra bien fonctionner que si on met des investissements financiers aussi, je dois bien le dire, dans la formation des enseignants, formation initiale, mais également formation continue.
Et ben voilà, c'est sur cette notion de fédéralisme qu'on va conclure cette émission. Merci beaucoup à vous cinq d'avoir participé à cette table ronde. J'espère qu'elle aura permis de rendre un peu plus lisibles les différentes approches et les différents choix cantonaux en matière d'enseignement religieux à l'école publique. Babylone, c'est une production de Nicole Duparc et David Collin. Merci à Carmen Algarada qui était en régie à Lausanne, à Daniel Rieder qui était à Delémont. Merci à Jérôme Ruffini qui a réuni la documentation. Et merci à Nicole Corpato, notre assistante, qui s'occupe chaque jour de notre page internet babylone.rsr.ch. Demain dans Babylone, nous partirons dans les vignes valaisannes en compagnie d'Annick Chouin qui est allée boire un coup à notre santé à l'occasion de la parution du livre « Histoire de la vigne et du vin en Valais » des origines à nos jours. Un livre publié par le musée valaisan de la vigne et du vin. Un gros pavé passionnant, 570 pages, une somme autour de cette divine boisson. Valais, vigne ouverte, un documentaire à écouter dès demain. Demain, entre 9h et 10h sur Espace 2 et en nouvelle diffusion à partir de 19h.
Babylone, avec le temps.
Sur Espace 2, il est 10h.